Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons nous pencher sur un sujet qui est important en ce qui concerne l'unité de l'Église. Et nous pouvons en parler dans un monde où est-ce qu'on peut parler véritablement de cohésion et d'entente dans le monde dans lequel nous vivons, dans tous les domaines. Et je pense que l'Église, quelque part, si vous permettez, doit pouvoir faire exception. Nous avons d'autres raisons, nous avons d'autres ambitions, nous avons d'autres relations. Et ça, c'est essentiel de pouvoir faire le point de cet état, tout simplement. Alors, nous allons lire un passage dans Jacques, chapitre 2. Et j'aimerais donner un avant-propos, un préambule, pour nous montrer qui était Jacques, pour nous dire qui est Jacques. Et simplement, ce Jacques-là, parce qu'il y en a quatre dans l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le frère de Jésus. Oui, frère de Jésus. Et il a été appelé, il est nommé par Paul, les colonnes de l'Église, une des colonnes de l'Église. Donc il y a certainement un enseignement important à nous livrer, et c'est ce que nous allons donc prendre en considération. Je rappelle la référence, Jacques, chapitre 2, verset 1er. Cet enseignement est véritablement basé sur l'antithèse. Vous savez ce que c'est que l'antithèse, que l'antithèse. Et il est question finalement d'un balancement, d'un contrebalancement pour enseigner les chrétiens dans une période où ils étaient persécutés, les chrétiens, les premiers chrétiens de l'Église primitive, naturellement. Donc, j'ai bien dit, un enseignement par antithèse. Les chrétiens convertis, nés en Jésus-Christ, qui se rassemblent dans l'Église, comme nous l'êtes ce matin. Et puis les sympathisants qui viennent nous voir, qui sont là au milieu de nous, qui n'ont peut-être pas pris d'engagement, mais qui cheminent et qui viennent dans leur état, probablement sortis du monde, avec leur manière d'être, leur manière de s'habiller, leur manière, enfin, toutes sortes de choses que nous pouvons deviner. Et puis, il y a également le chrétien et le juif, l'israélite, qui peuvent fréquenter aussi nos réunions. Il y a le riche et le pauvre, et oui, qui peuvent se rassembler dans une communauté évangélique. Et nous voyons que c'est quelque chose d'assez fréquent, parce que nous n'avons pas tous la même situation. Nous ne sommes pas dans le même état professionnel, naturellement. Il y a des gens qui sont fortunés, et puis il y a des gens qui sont très pauvres au milieu de nous, ou pauvres en tous les cas, on pourrait le dire aujourd'hui de cette manière, qui montre bien que nous pouvons avoir des réactions qui pourraient se décliner de cette manière chez les enfants de Dieu. Le favoritisme et le parti pris, ou alors l'indifférence. Bon, ils sont là, c'est très bien, on leur dit bonjour si on les rencontre, voilà. Et puis, il y a des sentiments plus marqués, qui quelquefois font parler, et qui ne sont pas toujours très bonnes, ces sentiments. Tout simplement, favoritisme ou, la indifférence d'autrui, et voire même de l'aversion. Qu'est-ce que fait ce personnage dans nos églises? Vous avez vu comment il est habillé? Vous avez vu comment il parle? Vous avez vu comment il se comporte? Alors c'est tout un brassage. Et on va le voir parce que les choses ont été naturellement observées par Jacques et il nous enseigne. Il y a trois points qu'il souligne dans son épître. Il n'y en a qu'une, Jacques, il n'y a qu'une épître. Il y a l'épreuve de la foi. Il y a les preuves de la foi, et puis il y a également les effets de la foi. Alors, on pourrait dire qu'il y a les œuvres et qu'il y a nécessairement le fruit. et une église où il n'y a pas de fruits, c'est pas tout à fait à la ressemblance de Jésus. Et nous voyons que dans les religions que nous avons autour de nous, je dis bien les religions, je ne parle pas à ce moment-là, eh bien, de la communauté d'hommes et de femmes qui sont convertis à Jésus-Christ. Les effets, quelquefois, eh bien, sont désastreux, parce que ça ne fait que des divisions, en l'absence, tout simplement, eh bien, de manque de fruits. C'est Jésus qui nous dit ça, et ce sont des paroles qui sont rapportées par Matthieu et Luc. Jésus dit bien à ses disciples, je pense dans le sermon sur la montagne, si ma mémoire est fidèle, il est dit ceci, Jésus lui dit ceci, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, ou que ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire ?» Ben oui, ils sont gentils, ils sont bien, ils sont bienveillants avec vous, ils sont en effet pleins d'attention, ils vous invitent, enfin toutes sortes de choses. Que faisiez-vous d'extraordinaire? Est-ce qu'il y a du surnaturel dans ce domaine, dans ce comportement, dans ces réactions? Est-ce qu'il y a quelque chose de miraculeux? À vous de répondre naturellement. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que le mot extraordinaire, ça veut dire beaucoup de choses, hein, ça veut dire surnaturel, hein, miraculeux, ça veut dire aussi prodigieux. Est-ce que véritablement, c'est ça? Dans Luc, il est précisé, mais quel gré vous en sera-t-on? Si vous faites ça, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites que, on va le dire dans un instant. Ou alors, il est dit dans Luc, que méritez-vous? Quelle récompense méritez-vous? Alors surtout chez nous, dans notre notion de grâce, on n'a aucun mérite. Et la question est toujours posée, mais si vous aimez que ceux qui vous aiment, vous leur rendez en bien le bien qu'ils vous font, c'est un vase clos, hein, ça ne va pas plus loin. Hein. Et là, on peut se poser vraiment la question, est-ce que véritablement c'est ça l'Évangile, hein? Est-ce que c'est ça porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors, ces considérations vues maintenant en introduction, j'aimerais donner un titre à notre message, accueillir sans préjugés. Vous savez que le but de nos églises et de nos prières, quand on se retrouve là le mercredi soir, hein, ici ou ailleurs, eh bien c'est véritablement qu'il y ait de plus en plus de monde, non pas pour faire du prosélytisme, mais véritablement pour gagner des âmes à Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont voir, ces gens qui viennent pour les premières fois? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Quelle opinion auront-ils finalement, d'avoir passé peut-être 2 heures, d'avoir passé quelque temps avec nous, et etc. Accueillir sans préjugés, ça va. Je voudrais quand même le signaler, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et pourtant, nous voulons tous que notre communauté grandisse et se développe. Si nous nous regardons les uns les autres, on vient de divers horizons. Voilà, en raison de notre état, de notre instruction, de notre éducation, enfin, tout le reste. Je vais prendre maintenant un exemple. Dans l'Ancien Testament, un jour, le prophète Samuel, que nous connaissons bien, est envoyé par Dieu pour faire le choix d'un futur roi d'Israël. Connaissez l'histoire ? Oh, je pense qu'il y en a plusieurs chapitres qui évoquent ça. Alors, le vieux prophète, parlons tout simplement de Samuel, cherche, lorsque Dieu le prévient par les paroles qui suivent. Paroles de Dieu, paroles et pensées qui viennent d'en haut, qui feront l'objet de notre méditation. Retenez bien ça. Samuel se dit en voyant Éliab, fils aîné de la famille de David. Certainement, c'est lui, loin de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. Il paraît que c'était un colosse, un homme très beau, le frère aîné, finalement. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ce ne sera pas lui le roi d'Israël. Ce ne sera pas lui qui montera sur le trône d'Israël. Et l'Éternel Cette phrase que nous connaissons tous est « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère ». Et là, c'est là où nous avons besoin de perspicacité, de savoir quelle est la pensée de Dieu, et non pas mes choix personnels et mon appréciation sur tel ou tel. C'est ça la question. Il faut se remettre un petit peu en place. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça, nous ne le savons pas. Nous ne le voyons pas et nous suivons souvent nos goûts, l'aspect extérieur. Et quelquefois, en pensant peut-être, eh bien, ce qu'il devrait être, mais qui n'est pas pour, finalement, dans les plans de Dieu. Alors, nous avons beaucoup à apprendre sur le comportement, la sagesse du comportement à apprendre dans les jugements que nous portons sur autrui. On voit dans le monde, je ne parle pas dans l'Église, mais on voit dans le monde quand même de drôles spécimens, surtout dans notre temps. Ah ouais, c'est vrai. Bon, vous regardez la télévision, c'est pas un mal en soi, mais quelquefois, il y a des choses, on se dit, mais le monde est vraiment pas bien. Hein. Par la vue. Alors, on peut juger autant qu'on veut, parce qu'il y a un écran, etc. On peut dire ce que l'on veut, naturellement. Mais moi, je pense que il faut faire attention, hein, tant dans l'aspect physique que dans l'aspect moral. Alors, ne parlons pas de religieux, parce que là, on est encore dans un monde qui est, en effet, qui bouge dans tous les sens. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est de tous les siècles, dans l'Antiquité, etc., etc. Alors, je pense que c'est vrai que nous portons et nous avons apporté un jugement. Jugé, c'est vrai. Il nous est dit, mais jugez selon la vérité. Hein. C'est Jésus qui le dit aussi. Hein. Alors, n'allons pas nous fier à l'instant et sur le moment, et bien tout simplement aux différences et aux préférences. Moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il est beau. Moi, j'aime bien ça parce que, voilà, il y a ceci, ceci ou cela. J'en suis peut-être frustré, alors ça me gêne un petit peu. Mais voilà, on a des préférences. Surtout aujourd'hui, où ces critères sont mis à la lumière de tout le monde. Hein. Ça se voit, hein. Dans le temps, il n'y avait ni radio, ni télévision, etc. Et puis maintenant, il y a l'Internet, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Hein. Vous apprécierez. Hein. Et nous voyons que ces critères déterminants reposent très souvent sur l'apparence, sur le physique, et sur la première impression. Ah, un coup de foudre. Voilà. C'est vrai en politique, hein. Et est-ce qu'on le connaît vraiment, nos hommes politiques? Voilà. Est-ce que l'on connaît véritablement ceux à qui on est finalement sollicité de faire confiance, mais on ne les connaît pas, on les voit comme ça, tout simplement. Hein. Il y en a, ça peut être la vérité. Hein. Il y a des gens tout à fait authentiques et véritables, et ils ne disent pas autre chose. Hein. La parole de Dieu nous dit qu'en réagissant ainsi, nous pouvons nous tromper gravement. Et je prendrai un exemple, parce que c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose de se tromper, de s'apercevoir que l'on s'est trompé. Et une fois qu'on a emprunté le chemin, on a du mal à faire demi-tour. Surtout à ceux auxquels on a donné on a vanté, finalement, ceci, cela. On peut faire beaucoup de mal aussi. On peut se faire du mal, parce qu'on va passer peut-être quelquefois pour des simplets. Ça peut arriver. Comment ne l'a-t-il pas vu? Voilà. On peut compromettre notre propre bonheur et celui des autres. Et là, je parle du mariage. Voilà. Et ça, faut faire attention. Hein. Vous savez, la plus belle fille du monde, eh ben, elle est ce qu'elle est, hein, c'est tout. Hein. Mais quelquefois, ça brille de tellement de mille feux, enfin, façon de parler, hein, qu'on s'aperçoit qu'elle est belle. Mais elle n'est pas vivable. Et c'est vrai pour un homme. Ah oui, je ne voulais pas l'oublier, ça, parce qu'autrement, je ne veux pas se sentir vivant. Et ça peut vous entraîner pour la vie. Et voilà. Ah oui, je n'ai regardé, je n'ai vu, au masculin ou au féminin, je n'ai vu que finalement, eh bien, il était comme Eliab, il était beau, il était grand, il avait toutes les qualités, il savait parler, etc. Attention au baratin. Mais oui, mais voilà. Et puis c'est vrai pour le Pour la gente féminine, c'est exactement la même chose. Mais la vie, c'est pas ça. Attention au jugement. Attention aux appréciations, appréciation à tout ce qui nous enthousiasme et qui... Oui, parce que l'homme regarde finalement aux apparences. C'est là-dessus que je vais justement et que Jacques est en train de nous dire les choses. Alors Jacques reprend à son compte tout simplement l'avertissement et il nous dit ceci. Mes frères, donc il s'adresse à des chrétiens et ce matin nous sommes enfants de Dieu, nous sommes engagés. Mes frères, dit-il, que votre foi, c'est la foi qui est en cause. Ce n'est pas autre chose dans votre spécificité de vie spirituelle, mais c'est la foi. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la norme, à travers la parole qu'il nous a donnée, à part les avertissements, à part les dangers dont il nous a mis finalement eh bien, en garde, soit exemple, c'est-à-dire rien du tout, soit exemple de toute acception de personne. Eh oui, acception de personne, c'est-à-dire que nous devons regarder tous les hommes. Nous devons avoir une appréciation qui soit conduite et inspirée par Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Et nous, on ne voit pas au cœur. Bien sûr qu'on ne voit pas au cœur. Quand je vois... Et comme nous voyons que tous ces grands tyrans et tous ces grands dictateurs dans le monde qui se sont succédés, alors on ne va pas parler de nous parce qu'on était les meilleurs, hein, Napo et puis tout le reste. Mais quand on voit tous ceux qui ont conquis le monde, mais c'était des gens, on les tenait pour des dieux. Et aujourd'hui, le langage n'est pas différent non plus. Hein. Ceux qui sont d'aujourd'hui là, qui, quelque part... Eh bien, soumettent les peuples, et où les peuples sont véritablement à genoux devant eux et les considérant comme des hommes d'exception. Ah oui, c'est ça. Hein. L'apôtre fait ressortir trois choses. D'abord, la foi, l'esprit chrétien, la vie spirituelle, donc trois. Il fait ressortir aussi la gloire, parce que nous sommes engagés à donner gloire à Dieu. Et dans nos choix, est-ce que c'est véritablement Dieu que nous recherchons pour qu'il soit glorifié? Et puis, l'attitude partiale inspirée par les préjugés, les préférences et le parti pris. Alors, en politique, ça marche. Puis dans bien d'autres choses. Dans les arts, par exemple, dans la culture, dans toutes sortes de choses. Parti pris, moi j'aime pas, etc., etc. Alors, c'est tout un monde qui est là. Déjà, dans la loi de Moïse, Dieu mettait en évidence le principe suivant que je vous rappelle. Dans Lévitique, chapitre 19, il est dit ceci. « Tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements. » C'est bien ciblé. Dans tes jugements. Tu verras à ne pas faire d'erreur, à examiner, à avoir cette perspicacité dans ce que tu vas juger. Parce qu'on juge et puis après on le dit. Et on le dit aux autres. Et ça peut influencer naturellement. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre. Alors voilà, là nous descendons. Oui, parce que tu aimes bien les riches, tu aimes bien ceux qui ont la prestance, ceux qui ont les moyens et ceux qui finalement le montrent et le démontrent. Mais il parle du pauvre là. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans le texte. Et tu ne favoriseras pas la personne du grand. Eh oui. Vous savez. Tout le monde veut être vu, connu d'un grand, que ce soit au sommet de l'État ou que ce soit dans la musique, dans la chanson, dans les arts, enfin dans toutes sortes de choses. Ah, moi, je le connais, je le connais. Il l'a vu qu'à travers une photo, mais il connaît. Alors, évidemment, c'est un peu court. Hein. La personne du grand, mais tu jugeras ton prochain, quel qu'il soit, selon... La justice, pas selon ta justice, mais selon la justice. Et cette justice, elle nous est enseignée par la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en substance? Tu aimeras. Avant de juger, tu commences. Vous savez, ça me fait penser à Jésus, quand il a rencontré ce malheureux. En effet, malheureux jeune homme qui vient vers Jésus, qui se met aux genoux de Jésus et qui, à un moment donné, se retourne parce qu'il ne peut pas suivre Jésus, parce qu'il y a trop de sacrifices à faire. Il vous est dit que Jésus le regarda, il l'aima et il lui parla. Attention de ne pas parler avant le reste, de juger ou de critiquer. Oui, il l'a regardé, il l'a aimé Et ensuite, il lui a dit le message qu'il avait besoin d'entendre. « Viens et suis-moi. » Il n'a pas pu suivre. Il l'aima. Nous qui sommes chrétiens, la seule gloire recherchée et la seule gloire autorisée est celle que Jésus est, où Jésus est élevé aux côtés de celle-ci, toutes les gloires humaines. Oui, Jésus est supérieur à toutes les gloires humaines, qui repose sur des distinctions, qui repose dans notre monde et dans le monde d'hier et d'aujourd'hui et de demain, qui repose sur le rang, sur la position, sur la richesse et sur l'influence. Comment on peut s'y retrouver dans tout ça, hein? Vous y ajoutez les fake news et les deep news, ben je peux vous dire qu'on plonge là. Hein? On va au fond de l'océan. Hein? Dans le monde dans lequel on est, rien n'est simple. Qui croire? Qui dit la vérité? C'est terrible. Hein? Moi, je pense que dans les derniers temps dans lesquels nous nous approchons, je ne vous dirai pas les jours, je ne le connais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les chrétiens de tenir la route. Il viendra des faux et ceci et cela, etc., etc. L'influence, la richesse. Parce que Jésus nous dit bien que tout cela, elles existent dans notre monde, ne sont que vanité et mesquinerie, parce que les honneurs ou la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède. Jacques donne un exemple, et nous le lisons. Je ne vous ai pas lu le texte tout à l'heure. Eh bien, on va le lire. J'avais vu que vous aviez déjà rangé vos Bibles. Non, allez, je raconte des histoires. On va le lire, le texte. Jacques, chapitre 2, verset 1er. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Et on a compris là. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. » On en a tous un, il me semble, non? De par le marié, je pense, moins que ce soit de l'aluminium. « Et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Assieds-toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là, debout, ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites pas en vous-même une distinction, n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. » Continue. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux, les riches, qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettras un mort, tu deviens transgresseur de la loi. Alors, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Supériorité de la miséricorde, de l'amour, du regard, finalement, eh bien, bienveillant, bienfaisant de l'homme qui se réclame de Jésus-Christ, et non pas le contraire. Voilà une situation type qui nous est donnée par, en effet, Jacques. Au cœur même d'un lieu de culte, imaginons que ce soit ce matin, dans le culte à Saint-Nazaire, un lieu de culte nous est présenté. Voilà. Là où tous les hommes sont égaux devant Dieu, unis dans la prière, et pourtant, on est venu ce matin pour prier, on est venu pour adorer le Seigneur, on est venu pour prendre la Sainte-Seine, on est venu pour entendre la parole de Dieu, on est venu pour chanter des cantiques ensemble. Apparemment, de première vue, on est unis, première vue. Et pourtant, le premier qui est défini, le premier dans le texte que Jacques cite, donc Le premier est un personnage, semble-t-il important, reconnaissant à la richesse de ses vêtements et à l'anneau d'or, qui est un signe d'autorité, reconnu comme ça, qu'il porte au doigt. Alors, la prochaine fois que je viendrai vous voir, je viendrai avec mes plus beaux habits, et je viendrai avec des anneaux d'or, ou alors je peux venir en haillons, en guenilles, et on va voir comment vous allez réagir. Ce serait intéressant de faire l'expérience. C'est ça le pasteur? Bon, il aurait pu s'habiller ce matin. Et c'est ça le pasteur? Il aurait pu quand même être un peu comme tout le monde. Ça vous fait rire, mais c'est bien ce que Jacques nous dit, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ah oui, il ne se gêne pas de le montrer. Alors, on croit devoir accueillir, ça c'est le supposé, on croit devoir accueillir celui-ci, le premier, avec d'autant plus de déférence qu'on a peur de son prestige et qu'on redoute son hostilité. Ben oui, c'est l'un ou l'autre, s'il est puissant, il peut être méchant, il peut être prétentieux, enfin, il peut être tout ce qu'il veut, et puis il peut faire du mal. Alors, on lui donne véritablement, voire peut-être même des avantages, que sa présence pourrait procurer. Il y a toujours des petits malins. « Oh, j'ai vu monsieur, là, le président, le PDG de telle entreprise, je cherche du travail, etc., etc. Alors peut-être que je pourrais peut-être avoir un petit entretien avec lui, ça pourrait peut-être servir. » Parce que j'ai reconnu qu'il était dans le pouvoir, tout simplement. C'est l'un ou l'autre, hein. Voilà, c'est la chèvre et le chou, hein, d'une manière ou d'une autre. Notre attitude dans le traitement de ce premier personnage, celui que nous avons cité, est inspirée par la crainte ou l'intérêt. Voilà, je le crains, donc je mets ma tête dans les épaules. Ou alors peut-être que je peux en tirer quelques bénéfices. Le deuxième est un homme qui n'a rien, ni pour lui, ni pour les autres. Pauvre R, hein. Voilà comme on dit, hein. Voilà. Alors on se demande même ce qu'il fait là. Oui, il a dû se tromper. Il a dû se tromper quand il est arrivé rue d'Ypres. Il pensait que finalement, eh bien là, oui, mais rue d'Ypres, il y a un temple. Il y a une église. Alors, t'es là par hasard. Vous savez, on a eu des gens, hein, dans le temps et dans l'espace, qui sont venus parce qu'il y avait de la chaleur l'hiver ici. Mais c'est bien qu'ils viennent. Parce qu'ils peuvent entendre l'évangile. Il y en a des qui s'égarent comme ça. Voilà. C'est un pauvre. Ben, qu'est-ce que nous devons faire? On ne va pas le mettre dehors en disant, voilà, tu... Non. Mais ça se voit moins chez nous parce que c'est beaucoup plus lamifié, vous savez. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même un monde social, naturellement, qui aide les autres. À peine lui offre-t-on de rester tranquille, sans se faire remarquer ou à la rigueur, lui consentant de s'abaisser assis à nos pieds. Là, ça se fait pas ici, hein. Assis, tu t'assois là, tu vois, t'es un pauvre homme. On a compassion de toi, mais tu sais, on te demande de pas faire de bruit, de pas chanter des cantiques quand t'as la prédication, de pas taper des mains ou de pas, ceci et cela. Alors tu te mets à mes pieds, sous la chaise. Voilà, ça peut être vu de cette manière, hein. Moi, je me souviens quand j'étais pasteur à Cholet, on avait des réunions le samedi après-midi, et on a eu un jour un pauvre homme qui est rentré, et il avait pris toute la rangée, là. Et c'était des rangées plus petites, hein, comme ça, sur des chaises en bois. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est mis à se balancer sur les chaises, comme ça, en avant, en arrière, etc., etc. Alors, c'est vrai que ça dérangeait tout le monde, hein. Mais c'est pour vous dire qu'on peut avoir n'importe qui. On a eu... Un jour, je ne sais pas si vous en souvenez, mais au moment des élections, là, de temps de M. Sarkozy, il est venu dans l'église, et puis il disait devant tout le monde, il était là, il disait devant « Votez Sarkozy !» pendant la prédication. Vous en souvenez? Ah, mais moi, je m'en souviens bien, parce que je vois tout le monde, hein. Je vous vois, hein. Je scrute. Alors, ça fait du bruit, hein, bien sûr, hein. Mais enfin, bon, il est là, et puis on en a vu d'autres, hein. Il est bonne et... Voilà, toutes sortes de choses. Alors, comme si la présence du pauvre, eh bien, était embarrassante et devait être dissimulée, comprenant, compromettante, que cet homme soit à nos côtés. Et si l'on pensait que ce pauvre, ce va-nu-pied, était mon ami, ah tiens, c'est peut-être l'ami d'Alain, mais qu'est-ce qu'il fait être l'ami d'Alain? Ou Alain, qu'est-ce qu'il fait avec un ami comme ça? Eh bien, c'est tout simplement, mes amis alors, ce ne seraient peut-être plus mes amis. Vous vous rendez compte, le pasteur, il fréquente n'importe qui. Ah oui. Bah oui, c'est sûr que ça peut gêner, hein, tout ça. Ça peut gêner, mais bon, c'est la leçon qui nous est donnée. Hein. Pas de favoritisme, pas de différence, surtout, avec le grand, le petit, le pauvre, le riche, etc. etc. Quand de telles pensées ou sentiments s'élèvent en nous, savons-nous ce que la Bible nous dit et nous invite à faire? Eh bien, la Bible nous dit, dans 1 Pierre, tous, sans exception, tous, et d'une manière d'ensemble, revêtez-vous d'humilité. Lorsque nous franchissons la porte de cette communauté, et comme de toutes les communautés, nous devons rentrer avec la pensée, non pas de briller, de rayonner, mais en toute simplicité et en toute humilité. C'est ça ce qui amène véritablement les bonnes relations et qui amène le respect des uns et des autres. Je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas en dessous, je ne suis pas... Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, eh bien, aux humbles. Dans Romains, chapitre 13, il est dit ceci, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, et n'ayez pas soin de la chair, parce que c'est ça le problème, et on va en parler de la chair. » Pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les hommes ont des images de marque, oui, ils se remarquent, tout simplement, ou ils sont remarquables par, finalement, la réputation qu'ils ont. Si elle est bonne, c'est très bien. Et Jean fait référence à trois catégories de convoitises qui sont bien distinctes. Il y a tout simplement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la convoitise ou l'orgueil de la vie. Alors avec ça, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de bien. On fait beaucoup de mal souvent. Souvent beaucoup de mal. Et que le monde réagisse ainsi, soit... Mais Jacques nous ramène à la réalité d'un mal que nous avons, que nous n'avons pas, tout simplement, qui porte un nom, l'injustice. On voudrait se grandir par, finalement, eh bien, nos propos. Et s'ils sont injustes, eh bien, c'est pas ça qui va nous démarquer dans notre spiritualité, l'injustice. Ne faites pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration de pensées mauvaises, de pensées mauvaises. C'est le théologien Quen qui le dit, ça. Ne voyons-nous pas, dans notre fort intérieur, que nous établissons entre les hommes des distinctions, et je rappelle les mots que j'ai cités tout à l'heure, des différences, des préférences, contredisant notre foi. Ouais, il a la foi, mais à côté de ça, voilà, hein, il a tel ou tel parti pris. Notre comportement trahit un jugement inspiré par des normes incompatibles avec ce que nous croyons. Les gens ne sont pas fous. Hein. Les gens font bien la différence. On sait reconnaître un orgueilleux, on sait connaître un vaniteux qui nous raconte des histoires, des fadaises, enfin des carabistouilles. Vous savez, ça c'est mon bon préféré. Hein. On le sait, ça, à un moment donné. Ben, on l'aime bien quand même, parce qu'il est au milieu de nous. Mais quelque part, ça peut nous faire de la peine de savoir qu'il est dans son fond, et bien comme ça. Et ça, ça crée des malaises, des embarras. Ce que l'on fait à l'un doit être fait également à l'autre. Oui. Alors, on peut avoir des sympathies, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand, dans certains cas, ça doit être fait à tous également. De la même manière. Et est-ce l'apparence, est-ce l'élévation ou le pouvoir de quelqu'un, la gloire ou le prestige, entendez par là l'argent ou l'influence qui doit primer pour nous, faire honorer ou, son contraire, mépriser l'autre, admirer le premier et déconsidérer le second. Ça ne doit pas exister. En tous les cas, ça doit être égalisé tout ça. Ouais. Ce que l'on fait à l'un, on va le faire à l'autre. Pas de problème. Bien sûr, il y a des circonstances qui sont à tenir en compte, hein, de ceci et cela et des situations. Mais néanmoins, oui. Néanmoins, il faut que ce soit juste au milieu de nous. C'est vrai. Il y a cette vieille histoire de l'homme que celle des différences, hélas, même chez les croyants. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le juif et le païen, le riche et le pauvre, le patron et l'ouvrier ou l'employé, le savant et l'ignorant, le fort et le faible, les blancs et les noirs, si on veut virer sur une autre dimension, jusqu'à tous les sectarismes, le nationalisme et voire même ce qui va amener véritablement la destruction du monde, le racisme. Ah oui, nous ne recevons dans notre église que des gens de tel pays qui sont ceci, qui parlent cela, etc., etc. Non, ça c'est terrible. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous des créatures de Dieu. Alors avec des différences, et des différences que quelquefois ça ne passe pas, parce que bon, il y a des manières d'être, des manières de faire qui ne sont pas. Maintenant, quand on veut les imposer aux autres, ça ne va pas dans un sens ou dans un autre, hein, c'est sûr. Oui, et le texte nous dit « ne jugez pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ». Nous avons quelques exemples que vous, et je terminerai. Voyons quelques exemples. Jean et les Samaritains. Jean, il a été appelé l'apôtre de l'amour. Eh bien, il n'était pas tant que ça l'apôtre de l'amour, parce qu'un jour, finalement, eh bien, Jésus devait traverser un village de Samaritains avec son équipe. Et Jean s'est payé le culot d'aller voir Jésus en disant, eh bien, écoute, veux-tu que nous demandions, parce que c'était des Samaritains, veux-tu que nous demandions que le feu du ciel descende sur eux et les consume tous? Ça, c'est de l'amour. On les grille, comme au Moyen-Âge, les sorcières. Ben, vous savez, ça n'a pas tellement plu à Jésus. Oui, parce que Jésus était venu aussi pour les Samaritains. Et si c'est ça, prêcher l'évangile, je vous dis, c'est un évangile plein de feu. Oui, enfin, façon de parler. Simon le pharisien, ah oui, il était pas mal ça. Vous savez, celui qui invite la femme qui se met aux pieds de Jésus et qui va pleurer, mais pleurer, hein, pas des larmes de crocodile, vraiment des larmes. Parce que elle s'imagine, elle voit, elle entrevoit finalement eh bien, la vie qu'elle a fait, qu'elle a eue. Et elle pleure de repentance. Et Simon le pharisien, lui, ce que vous voudrez. Et il se dit en lui-même, il ne l'a pas dit devant les autres, mais enfin il se le dit en lui-même, et Jésus, comme s'il sait tout, bah, il voit, hein, naturellement, il savait, s'il savait en parlant de Jésus, s'il savait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Ah, quelle horreur, quelle indécence. Terrible. Ben oui, mais cette femme, elle était peut-être prostituée, mais c'était une fille de Dieu, une créature de Dieu en tous les cas, et Jésus n'a jamais méprisé. Et lui, le pharisien, parce qu'il allait au temple, etc., il donnait de l'argent, et puis voilà, il était gonflé comme un banc de baudruche, il n'y avait que ça, de toute façon. Et il dira, mais si Jésus savait, ben, il ne la toucherait pas, parce qu'elle est impure, cette femme. Ben oui, mais on peut être impur, et puis croire, se repentir, et devenir pur, par le sang de Jésus. Ça, c'est sûr. Ah, notre ami Bartimée qui fait un ramdam sur la route de Jéricho. C'est pas écrit, hein, mais moi qui l'ajoute. Et il est aveugle, pauvre malheureux, aveugle de naissance, je me souviens plus tellement, mais il est mendiant en tous les cas. Il a plus sa place dans la communauté normale des hommes. Et il nous est dit que les disciples, hautement spirituels, reprenaient Jésus, et le reprenaient en même temps, ils le reprenaient pour le faire taire parce qu'il faisait trop de bruit. Eh oui, quelquefois, il y a du bruit dans l'église. Il y a des gens qui se comportent d'une manière... voilà. Mais bon, nous, on a vu des spectacles ici extraordinaires. Hein. Hein, des gens qui ont crié, des gens qui ont finalement fait un tel bazar que, bon, on ne savait pas trop quoi faire. Hein. Ben oui, mais on les a fait taire quand même. Hein, parce qu'on était en assemblée générale. Et ça, c'est encore autre chose. Déjà, dans un culte, c'est très important, mais en assemblée générale, on peut parler, mais s'en fiche le bazar. Voilà. Il le reprenait pour le faire taire. Tais-toi, Bartimée. Tu vois, nous, on est tous ensemble, on est en train de marcher pour aller à Jéricho, et tu fais trop de bruit. Ah oui, il faisait du bruit, parce qu'il était, il savait que Jésus pouvait le guérir, et il demandait à Jésus de le guérir. C'est ce qui a été fait. Ah, les disciples, encore. Mais c'est curieux, parce que moi, ce que je remarque, les plus opposés, finalement, eh bien, ça, ce sont les enfants de Dieu, disciples, compagnons de Jésus et tout ça. Et il y a les disciples et la cananéenne. Ah, la cananéenne. Il nous est dit, tout simplement, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et ça fait un peu comme Bartimée, tout simplement. « Juge inique et la pauvre veuve. » Nous avons encore un autre exemple, c'est le gouverneur Félix. Pour des intérêts personnels dans son état de proconsul, eh bien, a envoyé à expédier Paul, finalement à Rome. Oui, tout simplement. Félix et Paul, c'est une leçon que nous avons dans le livre des Actes. Acceptation de personnes, on y trouve pêle-mêle les préjugés raciaux, le mépris des bas tombés, le refoulement de ceux qui ne comptent pas pour nous, la violence à l'égard de ceux qui nous dérangent, l'argent et les profits, etc., etc. Il faut reconnaître honnêtement que dans toute sa longue histoire, le christianisme, je parle du christianisme dans sa globalité, que le christianisme a été parfois scandaleux. Ses outrances, son orgueil de supériorité, de soumettre des pays, des foules, lorsqu'il a pris les colorations partisanes, et ça c'est quelque chose, et chez nous il faut absolument pas que ça arrive ça, nous sommes chrétiens évangéliques, donc nous sommes au-dessus des autres, vous avez entendu? Non, on a souvent entendu des discours en disant « mais nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons les dons spirituels, nous avons les fruits de l'Esprit, ça faut vérifier hein. ». Parce que ça va ensemble, fruits, et donc ça va ensemble. Hein. Attention, ces tâches-là, eh bien, restent encore davantage pendant des siècles et des siècles. Et ça fait finalement, eh bien, quelque part, non pas une publicité, mais une contre-publicité pour les religions qui se sont vautrées dans cette démarche partisane de choix inique. Voilà. Et les guerres de religion n'étaient pas loin derrière, hein, de toute façon, où c'était la conséquence. Que votre foi soit exemple de toute injustice, de tout parti pris. Il semblerait qu'au hit parade, je ne sais pas si vous l'écoutez, mais il y a des choses intéressantes quelquefois, de la sélectivité. Alors la sélectivité, je voudrais quand même vous dire que c'est un mot inapproprié pour le message que je suis en train de donner, parce que c'est une mesure d'électricité et de radio. Mais bon, j'ai donné parce que ça pouvait éventuellement bien scinder la chose, bien comprendre la chose. La sélectivité, c'est que finalement, eh bien là, on en laisse de côté, on prend les autres, etc., etc. Ce qui fait faire la différence, c'est avoir des attitudes partiales, c'est soit la peur, alors par peur, eh ben, on va commettre des injustices, ça c'est possible, hein, c'est vrai. La crainte de l'homme, soit l'intérêt et les avantages que l'on trouve auprès de certains puissants ou influents dont on désire obtenir les faveurs. Eh oui, quand c'est Dieu qui nous donne sa faveur, quand c'est Dieu qui nous donne sur un plateau, on n'a pas besoin de le chercher auprès des hommes. Maintenant, Dieu peut se servir des hommes pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il peut nous répondre, prie, et en effet, tu recevras, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas à nous d'avoir une attitude de forcing pour dire « Eh bien voilà, je vais le chercher auprès de certains et certains. Si Dieu veut le faire, il fait. » Mais Dieu peut nous donner aussi directement, sans nous compromettre dans des choses qui ne sont pas toujours très claires. La parole de Dieu déclare « répréhensible » tout ce que nous, en comportement, en tant qu'attitude, langage, démarche, modifie ou modèle notre manière d'être en fonction des personnes qui nous font face parce qu'ils sont ceci, parce qu'elles sont cela. Vous savez, nous devons avoir un modèle, un exemple, c'est Jésus et Jésus tout seul. Oui. Ça descend de haut et ça ne vient pas de tous les... Alors qu'on ait des exemples et que nous voulions suivre les bons exemples qui sont à l'horizontale, c'est une chose. C'est ce que nous faisons ce matin. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut toujours regarder d'abord en haut. Quoi qu'il en soit, la vérité et la justice ne supportent pas les différences. Elles ne sont pas préférentielles. Elles sont tout simplement, eh bien là, égalitaires. Alors, je terminerai par ce que nous avons commencé quand il est dit ceci. cette parole. Samuel se dit en voyant, Eliab, certainement, c'est lui loin de l'Éternel. Et Dieu répond, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. C'était une étude, hein, je tiens à le dire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que nous vivons dans un monde où nous pouvons dire sans véritablement, Seigneur, la foi aux vanités. Oui, parfois un champ de foire. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que nous sommes en effet eh bien, au milieu de tout cela. Et sur cette terre, tu ne l'as pas fait ni blanche ni noire, tu l'as fait grise. La vie est grise. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes plus de discernement, plus de prudence, plus de perspicacité, plus, en effet, de la manière dont tu vois. Et ainsi, Seigneur, de pouvoir juger des choses, les prendre ou les rejeter. Savoir qui est qui, bien que nous ne serons jamais, en effet, le fond, la fin de tout homme. Mais une chose qui est certaine, c'est que véritablement, tu nous encourages, et notamment à faire la différence entre ce qui vient de l'homme, c'est-à-dire l'humain, ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire le divin, et ce qui vient du diable pour nous, en effet, faire perdre pied, c'est-à-dire le malin. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs. Nous croyons, Père éternel, que ce message de Jacques, c'est un message universel. C'est un message qui, en effet, nous donne le tempo de ce qui doit être au sein, eh bien, du corps de Christ. Et ainsi, Seigneur, de pouvoir nous comporter, de pouvoir vivre dans cet amour qui est véritablement eh bien, l'essentiel du message de Dieu sur terre pour les hommes. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous savons que nous ne sommes pas et loin d'être parfaits, mais Seigneur, nous cherchons à ressembler à Jésus, à être comme Jésus, à parler comme Jésus, à vivre comme Jésus, et ainsi Seigneur, eh bien, à aimer comme Jésus a aimé les hommes pour les sauver. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Amen.